Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Le gouvernement américain ne devrait pas encourager à distance l'insécurité et les pillages des richesses congolaises, mais les exploiter sur place en RDC et créer une valeur ajoutée. C'est ce que recommande une soixantaine d'organisations de la société civile qu'elles ont dit à l'occasion de la visite en RDC du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et puis évasion de la prison de Kakwangura Butembo dans la nuit de mardi à hier mercredi, l'armée parle d'une attaque perpétrée par les ADF aux côtés des Mai Mai, mais déjà 115 prisonniers ont été récupérés et retournés à la prison. Enfin, plus de 60 morts ont été dénombrés à l'espace de 5 jours en Ituri. Qu'est-ce qui explique cette résurgence de violence dans cette province alors qu'un processus de paix est en cours? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Il est le gouverneur de la province de l'Ituri. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Une soixantaine d'organisations de la société civile, notamment la Ligue des électeurs, la CAJ, la ZADO, la Ligue COCO, recommandent au gouvernement américain à ne pas encourager à distance l'insécurité et les pillages des richesses congolaises au lieu de les exploiter sur place en RDC et créer une valeur ajoutée. Elles ont fait savoir dans une déclaration adressée ce mercredi au secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'occasion de sa visite en RDC. On écoute ici le rapporteur de ces organisations, Franck Fouamba, au micro de Jeff Ngoy.
Nos organisations attendent du gouvernement américain des actions concrètes en faveur de la RDC et sa population dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et le progrès voulu par les deux pays. En effet, les observations suivantes devraient pousser les États-Unis d'Amérique, porteurs des valeurs humaines, à s'impliquer de manière significative dans le rétablissement de la stabilité de la RDC sous toutes ses formes. Nos organisations attendent que le gouvernement américain incite les entreprises américaines intéressées par le cobalt, le coltan, la cassitérite, le manganèse, le cuivre, le bois, le pétrole et d'autres ressources naturelles à venir directement négocier avec le gouvernement congolais, s'installer dans les provinces du Kivu ou du Katanga afin de se ravitailler à la source auprès des entreprises congolaises en créant la valeur ajoutée avant leur exportation.
Et puis avant de boucler sa visite en RDC, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu hier mercredi matin à Silinkin Village, un centre d'entrepreneuriat et d'innovation situé à Itex Afrique ici à Kinshasa, pour visiter les participants à un hackathon. Hackathon est en fait un concours organisé par Kinshasa Digital et Internews. Il vise à répondre aux défis auxquels font face les médias en ligne et la presse écrite durant le processus électoral. À cette occasion, Anthony Blinken a dit avoir été impressionné par les différents interlocuteurs qu'il a rencontrés durant son séjour à Kinshasa, particulièrement les jeunes, et il espère que les prochaines élections en RDC seront démocratiques et transparentes. Prenant la parole à son tour, Noémie Kilembe, DGA de l'Internews, a contextualisé cet événement qui vise à promouvoir l'engagement citoyen à travers des informations exactes et fiables, notamment pour la vulgarisation du processus électoral. On l'écoute au micro de Baya Kamala.
Cette activité se passe dans le cadre du programme Media Sector Development Activity, un programme financé par l'USAID ainsi que les coopérations suédoises et suisses. Et dans le cadre de ce programme, l'USAID a fourni à Internews un fonds supplémentaire pour promouvoir l'engagement citoyen à travers des informations exactes et fiables. Internews appuie le partenaire local qui est Kinshasa Digital pour organiser ce hackathon. Un hackathon, donc c'est cette activité qu'on peut dire un concours des jeunes qui vont devoir proposer des solutions numériques qui peuvent vulgariser encore mieux l'information électorale. Le commun des mortels n'est pas suffisamment informé sur le processus électoral et sur les élections de manière générale. Nous avons là 35 jeunes, 5 jeunes par groupe. Et les 5 groupes vont proposer des solutions.
Et puis en plus bref, sachez que le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à N'Djamena au Tchad hier mercredi dans la soirée. En tant que président d'exercice de la Communauté économique de l'Afrique centrale, le CEAC, il va au nom de ses pairs participer aux festivités de l'indépendance de ces pays. Selon son porte-parole adjoint, Tina Salama, qui livre cette information, le chef de l'État ne manquera pas de se pencher sur les préparatifs du dialogue national qui mettra autour autour d'une table toutes les forces politiques et sociales tchadiennes après la signature dernièrement des accords entre autorités et groupes rebelles tchadiens à Doha au Qatar. La ville de Butembo était agitée hier à la suite de l'attaque de la prison centrale de Kakwangura par des hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi. Ces derniers ont cassé le portail de l'enclos ainsi que le porte des cellules permettant ainsi l'évasion de plus de 800 détenus. Trois suspects ont été appréhendés par la population dans le quartier Kamesimbo-Nzo, dans la partie nord-est de la ville, et brûlés vifs par les habitants en colère. Dans une communication à la presse cet après-midi, le porte-parole des opérations Sukula 1, le capitaine Anthony Molushai, a affirmé qu'après des enquêtes approfondies, ces assaillants sont plutôt identifiés aux ADF qui ont opéré aux côtés des Mai Mai. 5 d'entre eux ont été neutralisés et 115 détenus arrêtés ont été retournés en prison, indique-t-il. On écoute le capitaine Anthony Molushai.
Il faut retenir que les enquêtes ont tellement évolué depuis 2h30 de ces mercredis où la prison centrale de Butembo a été attaquée effectivement par les terroristes ADF MTM, aidés, n'est-ce pas, par leur supplétif. Et voilà comment ADF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Butembo pour récupérer un certain Kizito qui était déjà ADF connu, arrêté ici, et aussi 12 femmes des ADF qui étaient ici, qui étaient dans un processus d'être évacuées ailleurs. Mais malheureusement, dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes, nous sommes intervenus avec retard parce que l'ennemi était armé lourdement et avec un effectif évalué à plus de 80 éléments. À la population de Butembo, c'est d'être très vigilante et de ne pas s'attaquer aux forces de l'ordre. Parfois, nous tombons dans le jeu de l'ennemi sans le savoir. L'armée, la police ne constituent pas votre cible. Nous avons un ennemi commun qui est ADF MTM.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, la Banque de développement des États des Grands Lacs, BDGEL, projette l'asphaltage de 3 km de route longeant le port public et la rénovation du marché central de Goma. L'annonce a été faite hier, mercredi, au gouverneur de province par le président du conseil d'administration de cette organisation sous-régionale. Selon lui, ce projet rentre dans le cadre des activités de relance de la BDGEL après une longue période de léthargie. Roger Chulungu Runika, dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat.
Parmi les points soumis au gouverneur, il y a l'organisation de l'Assemblée générale des actionnaires prévue pour le mois de novembre 2022. Et il est normal que nous puissions venir solliciter l'accompagnement et l'encadrement de l'autorité politique pour l'organisation de cette réunion de grande importance. Deuxièmement, nous avons échangé les différents projets que la banque envisage de financer, en particulier pour la ville de Goma. Il s'agit essentiellement de la réhabilitation du marché des Virunga et de l'asphaltage d'une route qui longe les ports d'une distance de plus ou moins 3 km. Il y a même une équipe technique qui travaille ensemble avec les experts de la banque. Et une fois que les travaux sont clôturés, la banque va soumettre ses projets au conseil d'administration qui va se réunir incessamment pour la validation et la mise en œuvre.
Rappelons que la Banque de développement des États de Grand Lac, BDGEL, est une branche financière appartenant aux trois États membres de la CPGEL, à savoir notamment le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec son siège social basé à Goma. Entre-temps, une délégation du Bureau central de coordination BCECO, conduite par son directeur général, est à Kananga pour les travaux de réhabilitation et construction de la route Kananga-Kalambambouji, mais également de la voirie urbaine. Jean Mabi a indiqué, après échange ce mercredi avec le gouverneur de province, que des entreprises ont déjà été recrutées pour exécuter les travaux à la suite des contrats de partenariat. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure qui accompagne la délégation a également expliqué que le souci est de désenclaver le Kasaï central. François Kadima.
Selon le directeur général du Bureau central de coordination, son équipe est venue à la suite du protocole d'accord signé le mois dernier entre le gouvernement provincial du Kasaï central et le BCECO comme maître d'ouvrage pour les travaux de la voirie urbaine et ensuite finaliser les contrats avec les entreprises identifiées pour la réhabilitation de la route Kananga-Kalamamboji. Jean Mabi.
Nous avons pu recruter des entreprises. Nous allons signer le contrat de ces deux entreprises pour pouvoir lancer les travaux. Lors de notre mission, nous avons fait la route Karambougine. Là aussi, nous avons signé un protocole d'accord pour pouvoir justement moderniser cette route. Nous avons pu identifier une entreprise qui est prête à financer justement ces travaux.
De son côté, le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure a indiqué que le président de la République veut voir la ligne Kananga-Kalamambouji être modernisée le plus tôt possible pour le développement du Kasa central. David Moukeba.
La route Kalambambouji, c'est une servitude importante pour le désenclavement du Grand Kassai. Aujourd'hui, nous pensons que c'est la meilleure opportunité qui s'offre, parce que ça a toujours été un souci pour le chef de l'État, cette route devenir une route, alors une vraie route.
Signalons que ce même mercredi, le gouverneur de province, accompagné de cette équipe, a réceptionné à Kananga les engins pour la réhabilitation de la voirie urbaine. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Au Kwilu, la route nationale numéro 1 est en train d'être réhabilitée par une société chinoise depuis quelques jours dans son tronçon compris entre Kinshasa et Kikwit, traversant les territoires de Massimanimba. Alors, selon l'administrateur de ce territoire, ces travaux consistent seulement à boucher les trous sans tenir compte d'autres endroits bitumés qui ont aussi vieilli. Jean Bosco Mukubidi affirme ne pas être satisfait de cette façon de faire, car selon lui, ce n'est pas une solution durable. Pour lui, ce tronçon routier qui est totalement délabré et qui occasionne beaucoup d'accidents de circulation mérite d'être reconstruit une bonne fois pour toutes. Jean Bosco Mukubidi, l'administrateur du territoire de Massimanimba, est joint au téléphone par Irène Mbouma.
Par rapport à la route nationale numéro 1, les travaux ont déjà commencé. Ce que nous avons remarqué, nous sommes en train de boucher les trous. On croyait qu'on va encore recommencer la route, mais ce n'est pas la construction comme telle de la route. Ils sont en train de toucher les points chauds. Là où il y a des trous, c'est bouché. Donc c'est ça qu'ils sont en train de travailler, ces tronçons qui traversent notre territoire de Massimanimba. Ce n'est pas vraiment bon parce que boucher les trous, oui, mais les vieilles bitumes qui sont là, ça va encore s'abîmer. Donc on va encore revenir pour refaire le trou au lieu de faire complètement la route comme à partir de 622 si vous montez là-bas, c'est très bien fait. Mais de ce côté, on est en train de boucher le trou. Bon, j'avais posé la question aux Chinois, ils ont dit que c'est le contrat qu'ils ont signé. Alors je ne sais pas si réellement c'est ça le contrat qui a été signé pour boucher seulement des trous. C'est vraiment déplorable. La route est délabrée. Vous avez suivi, il y a eu des accidents. Mais maintenant, là, ils sont en train de travailler pour boucher des trous. Peut-être ça sera praticable, mais pas d'une façon durable.
Et puis cette nouvelle qui mérite recevoir des fleurs. Au Nord Kivu, la Fondation Virunga produit du chocolat à Mutwanga dans les territoires de Beni depuis bientôt 3 ans. Ce chocolat est fabriqué à base de cacao produit dans la région, donc localement. Une grande partie de cette production est exportée en Europe, principalement en Belgique. L'insécurité due à des attaques régulières des rebelles de l'ADF dans la région est un défi majeur pour ces activités, Sadiq Aboubakar.
C'est depuis janvier 2020 que cette usine a produit son tout premier chocolat made in Congo. L'usine est implantée à Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Cette zone est en proie à l'insécurité due à des attaques régulières des rebelles de l'ADF, ce qui constitue un défi majeur pour la production. Kambale Makasi, distributeur du chocolat Virunga Origin dans la région de Beni et Bunyanituri, explique.
L'usine est dans une zone rouge. Quand il y a des attaques, on est obligé d'arrêter la production.
Au-delà de ces défis, la Fondation Virunga produit au moins 50 kg de chocolat par jour et en exporte en Europe plus ou moins 5 tonnes par an. Cependant, la consommation locale n'est pas encore satisfaisante, indique Kambale Makasi.
On n'est pas encore satisfait de cette consommation locale. On est en train de développer des mécanismes afin de pouvoir produire du chocolat qui sera à la portée de tout le monde vu le pouvoir d'achat de notre population.
Cette femme au foyer vient de se procurer du chocolat Virunga Origin dans un supermarché de Beni. Ses impressions sont surprenantes.
C'est une première fois que je consomme un chocolat fait en RDC. C'est vraiment un très bon produit. Et puis c'est fait à base de cacao produit localement.
Cette usine de production utilise une main d'œuvre locale dont 60% sont des veuves des éco-gardes qui sont morts en plein exercice de protection du parc national de Virunga.
Puis cette mise au point du directeur général de l'Institut supérieur de commerce ISC ici à Kinshasa, le professeur Émile Ngoy annonce aux étudiants de son établissement que les laboratoires surtout informatiques sont bel et bien opérationnels sur le site de l'Institut. Plus de 50 ordinateurs sont disponibles et une centaine d'autres devraient être ajoutés dans dans les jours à venir. Le DG de l'IS estime qu'il est important de vulgariser ces informations pour rassurer les étudiants et contrecarrer des allégations qui laissent entendre que cet établissement fonctionnait aux étudiants des frais de laboratoire sans leur offrir ce service. Emile Ngoy précise qu'un horaire de fréquentation de ces laboratoires est même déjà disponible pour les classes terminales et le deviendra aussi bientôt pour les classes de recrutement. On l'écoute à ce sujet au micro de Dona Madimba.
C'est une situation qui a existé avant nous, c'est-à-dire l'année passée, effectivement. Il y a eu beaucoup de remous dans cette institution. Il y a eu une carence. Les étudiants avaient payé les frais de laboratoire, mais n'ont jamais participé à des séances de laboratoire. Donc ça, c'était l'année précédente. Mais depuis que nous sommes là, nous avons pris des dispositions. Aujourd'hui, je vous parle. Nous avons réhabilité les laboratoires d'informatique. On a un peu plus de 70 ordinateurs. Et nous venons de commander une centaine d'ordinateurs pour renforcer les parcs informatique, nous donnons une priorité au fonctionnement de ces laboratoires, pas seulement pour les étudiants qui font la section informatique, mais également pour ceux qui font la section secrétariat. Il y a déjà un horaire qui est déjà affiché pour ces formations. Notamment, nous avons commencé avec les classes montantes, les finalistes. Ils ont 3 séances d'informatique par semaine. Après les finalistes, nous allons mettre en formation les classes de recrutement.
Actualité internationale.
La présidence malienne confirme que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a eu un entretien mercredi avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont félicités des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine militaire. Assimi Goïta a accusé réception du dernier lot d'équipements militaires fournis par la Russie. Il s'agit d'avions de combat et de transport officiellement livrés la veille de l'entretien téléphonique.
L'invité.
Plus de 60 morts ont été dénombrés à l'espace de 5 jours en Ituri. Qu'est-ce qui explique cette résurgence de violence dans cette province alors qu'un processus de paix est en cours? Comment les autorités militaires et la MONUSCO comptent-elles mettre fin à cette situation? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le gouverneur de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, s'entretient avec Marcel Kizabiamongo. Suivez.
Général Johnny Luboya Kachama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle lecture faites-vous de la montée des tueries à l'Ituri ces derniers jours avec plus de 60 morts en espace de 5 jours?
Bon, d'abord, il faut dire que c'est vraiment gênant de parler de ce problème, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais quand même aller plus en détail parce que il faudrait que le peuple congolais, n'est-ce pas, et même les Ituriens connaissent de quoi ça retourne. Vous savez que ça fait 2 mois que nous sommes en train de recevoir les actes d'engagement de groupes armés. Et nous avons eu notamment le FPTN Akilima qui a signé le premier son acte d'engagement, suivi de CODECO. Et donc, depuis ce jour-là, on a remarqué une accalmie, à part évidemment quelques tracasseries ici, extorsions, vols, ainsi de suite. Mais il n'y avait plus de tueries. Mais tout ça, c'est après un grand travail acharné avec les communautés Bira et Lendu. Il ne nous reste plus qu'aujourd'hui avoir les fonds pour les PDDRCS, mais ensuite aussi les actes d'engagement pris par Nairobi 2 qui aura lieu peut-être d'ici 3-4 semaines. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes étonnés que le seul groupe qui n'a pas signé un acte d'engagement, alors que nous sommes en pourparlers avec la communauté, parce qu'il s'agit de la communauté M, nous sommes en pourparlers, mais on est étonnés que comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer.
Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique cette agressivité du groupe armé Zaïre à ce moment?
Mais à cette question, nous avons une réponse parce que nous avons l'information. Il s'agit de Yves Kawamandro, chef des Baema Banyog, qui en fuite, ce monsieur-là, chef qu'il est, il réside à Tchomia. Un matin, il s'est réveillé pour dire que non, voilà, lui, il doit protéger sa communauté, ainsi de suite. Ce monsieur, non, ce monsieur a pris la clé des champs, Dieu seul sait. On dit qu'il est à Berunda, vers Berunda, mais je doute fort, il doit être dans les parages là-bas, où il est en train de recruter, où il est en train de mobiliser. Il appelle les autres communautés pour que, effectivement, des membres de certaines communautés ici, Lendu, je peux encore les citer, Lendu, Bira, pour qu'ils se joignent à lui pour des motifs qu'il connaît et que tout le monde connaît aujourd'hui. Parce qu'il parle de la balkanisation. C'est ça le grand problème. Ceux-là qui disent, ou le groupe qui dit que, voilà, il était en train de protéger les victimes. Non, c'est ce groupe-là qui commence à attaquer et qui commence aussi à tuer. Alors, on se pose la question, comment un groupe qui disait se protéger aujourd'hui commence à aller vers d'autres communautés pour aller tuer? Il est aussi aidé par certains députés provinciaux. Au moins, nous avons les noms des députés provinciaux et qu'ils fassent gaffe, parce que je vais citer aussi leurs noms, qui sont en train d'aller, n'est-ce pas, instrumentaliser les jeunes gens pour qu'ils ne déposent pas les armes, pour qu'ils continuent à tuer et tout. Et je vais citer leurs noms. Je crois que trop, c'est trop.
Face à ces tableaux sombres, comment comptez-vous mettre fin à cette tuerie qui refait surface alors qu'une accalmie était déjà observée dans la région?
Il n'y a pas de tableau sombre. Il y a un individu qui est en train d'instrumentaliser. Il y avait une accalmie. Maintenant, le problème qui est là, c'est quoi? C'est un problème d'intérêt, c'est vrai. Soit ils se disputent les mines, parce que voilà, c'est ce que nous avons eu entre le FRPI et le FPIC. Et du côté de l'Indo avec Codeco, bon, il y a quelques récalcitrants et tout, parce que bon, c'est vrai, il y a la faim.
Alors, comment comptez-vous mettre fin à cette situation, vous, avec votre partenaire, la MONUSCO, pour que la population soit sécurisée à ce moment?
Non, nous travaillons déjà ensemble. Vous savez qu'ils ont commencé à Boga et Tchabi. J'ai renforcé là-bas aussi avec les unités et aujourd'hui il y a eu aussi une accalmie et ils ont commencé à vouloir déranger la RN4 et tout, et donc là aussi nous avons renforcé aussi, et au jour d'aujourd'hui je crois que le trafic a repris et d'ici quelques jours cette situation va être arrangée. Donc voilà, mon message est clair, que la population soit tranquille. Ce n'est pas parce que nous avions demandé, n'est-ce pas, aux gens, aux groupes et tout, de ne pas continuer dans leur violence, que non, nous avons vu notre bonne foi et nous pensons que nous pouvons faire confiance quand il y a la bonne foi. Mais dès qu'ils vont rompre avec cette bonne foi-là, nous serons obligés d'agir.
Général Johnny Luboya Nkashama, merci.
Merci à vous aussi, Martial.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Paul Badenyama, coordonnée supervisée par Pelle Kipelamondo. Merci de nous avoir suivis.